Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans ce magazine de Vivante Église, un magazine consacré à l'accompagnement spirituel. Nous allons plus particulièrement orienter cette émission du jour sur les dérives dans l'accompagnement spirituel, l'emprise, les abus, les manipulations. On va essayer d'y voir plus clair avec en plateau, ici dans ce magazine, Suzanne Giuseppi Testu. Bonjour Suzanne Giuseppi.
Bonjour.
Nous avons déjà entendu le mois dernier dans un même plateau consacré au thème de l'accompagnement spirituel. Vous avez écrit un livre outil qui s'intitule « Petit précis d'accompagnement spirituel » avec ce sous-titre « Vivre librement » paru aux éditions Nouvelle Cité. À vos côtés, Marie-Christine Courbière. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour.
Vous êtes accompagnée dans la durée, la fidélité depuis 16 ans, oui. Avec à vos côtés Suzanne Giuseppi Testu. Et puis bonjour Philippe Jouve.
Bonjour.
Alors vous êtes vous-même depuis 20 ans, donc c'est une longue histoire, accompagnée.
Un long chemin.
C'est un long chemin, oui. C'est une aventure, l'accompagnement spirituel, une véritable aventure. Alors l'aventure démarre à l'instant dans ce nouveau magazine de Vivante Église consacré à l'accompagnement spirituel, mais autour de cet accompagnement, avec aussi une actualité récente, l'emprise, les abus, les prises de pouvoir, hein, et c'est un sujet un peu inconfortable. Qu'est-ce que vous pouvez dire en introduction, Suzanne Giuseppi Testu, sur, au fond, la manipulation qui peut se jouer dans l'accompagnement spirituel ? Et merci.
Oui, je crois que vous ne pouviez pas éviter ce sujet, parce qu'on ne peut pas le recouvrir, parce qu'il est réel, ce danger est réel. L'emprise, la manipulation peut se rencontrer dans tous les domaines, avec des choses extrêmement graves, mais il est certain que dans l'accompagnement spirituel, où il y a une intimité qui se crée, avec les personnes que nous accompagnons, malgré la distance qui est nécessaire, il y a tout de même une approche de la personne dans son intime qui fait que l'accompagnateur découvre obligatoirement la personne, découvre sa vie, découvre aussi ses fragilités, découvre ses forces. Et c'est là qu'il faut être extrêmement honnête. Il faut absolument avancer avec le Christ et ne jamais s'en séparer. Mais surtout, ne jamais se croire à l'abri d'un dérapage. Il faut savoir, je crois, que partout où la grâce abonde, le diable essaie de s'introduire. Donc l'accompagnement demande une très grande vigilance, demande de la vérification, demande de l'honnêteté. Il faut être sérieux, mais ne jamais se prendre au sérieux. Et toujours, toujours garder cette juste mesure et cette juste distance avec les personnes que nous accompagnons. Ne pas vouloir fouiller dans la vie des personnes.
Alors, Suzanne, permettez-moi de vous poser cette question. Quels sont les signes, les premiers signes, les premiers symptômes qui pourraient alerter d'une emprise dans un accompagnement spirituel pour les auditeurs qui suivent aujourd'hui ce magazine Vivante Église spécial sur comment éviter de tomber en fait dans la séduction et puis l'emprise au fond d'un gourou. Hein.
Oui. Alors, évidemment, il m'est très difficile d'y répondre parce que grâce à Dieu, je ne crois pas être dans cette situation et je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Mais il y a une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est la curiosité malsaine. Je crois que dans l'accompagnement, il n'y a pas à vouloir à tout prix faire parler. On n'a pas à faire parler la personne. On n'a pas à poser de questions indiscrètes. La personne, elle vient. Si elle vient, c'est parce qu'elle a le désir de cheminer, de donner un sens à sa vie. Elle vient, bien sûr, comme chacun de nous, chargée avec son histoire. Elle ne va pas pouvoir parler de son histoire. On ne peut pas faire un déballage, pour employer un mot un petit peu vulgaire, mais de son histoire. Donc, il faut la laisser parler tout doucement. S'il y a une question à poser qui peut l'aider à s'exprimer ou à comprendre quelque chose, certes, il faut la poser, mais pas être un intrus, ne pas vouloir absolument pénétrer dans la personne. Ça, c'est une chose extrêmement grave. Il faut que ce soit la personne qui se dise au moment où elle est prête à se dire et ne jamais aller au-delà de se dire, lui laisser le temps, ne pas être un intrus. Ça, c'est une première chose. Je crois qu'il faut une très grande vigilance
donc,
à ce sujet.
On peut entendre, et les auditeurs peuvent entendre maintenant, ils peuvent être alertés. Si
oui,
l'accompagnateur se situe peut-être un peu trop intrusif, vigilance.
Je pense
être
qu'à
en
ce
capacité
moment-là,
de stopper et d'arrêter.
Pas, il ne faut pas, bien sûr, prendre à la lettre hein, tout ce qui est dit. Il faut être prudent. Mais je pense qu'à ce moment-là, la personne doit être vigilante. La personne, l'accompagnée, doit être vigilante et elle n'est pas obligée de tout dire. D'ailleurs, personnellement, souvent dans l'accompagnement, je dis à la personne, si tu n'es pas prête à dire certaines choses, même quand je vois qu'il y a une chose à dire, importante, que la personne... Je lui dis, si tu n'es pas prête, ne t'inquiète pas. Tu en parles d'abord au Seigneur. Dépose cette chose-là sous le regard du Seigneur. Quand tu seras prête à en parler en accompagnement, et si tu veux en parler, si tu désires en parler, tu en parleras.
Donc, vous ne forcez absolument rien.
Jamais.
Vous confirmez, Philippe et Marie-Christine. Marie-Christine ?
Oui, je confirme. Et puis... Je pense que l'accompagnatrice, Suzanne, elle perçoit des choses que nous, on ne peut pas nommer non plus. Donc, avec beaucoup de patience, elle va nous amener doucement sur ce chemin où nous, on va pouvoir voir ce qu'il y a en nous. Parce qu'il y a des choses, mais on les voit pas et on ne peut pas les nommer au départ. C'est effectivement quand on sera prêt ou prête qu'on pourra dire... En toute confiance.
La confiance, on la trouve dans la bienveillance, la douceur, avancer avec la gratuité, la disponibilité. Il y a des choses qui sonnent tellement vraies que plus on va se dire, plus on va envie d'avoir à se dire. Parce que face à ce tel respect de l'intégrité, de la personne que je suis, j'ai cette image de plus grand que nous qui est présent. Je ne saurais pas trop comment l'exprimer. Mais plusieurs fois, je me suis dit, mais tu vas te perdre parce que je délivre des choses que je n'ai jamais dit à personne. Et malgré tout, il y a cette lumière qui reste toujours allumée en me disant, là, c'est vrai, là, tu peux y aller. C'est difficile à exprimer, mais c'est quelque chose de très présent à la fois et très fort, et qui fait peur, mais il faut oser et faire le pas.
Je crois que ce que dit Philippe est extrêmement important et d'une grande beauté, et c'est là où l'accompagnateur doit rendre grâce. Parce que quand une personne se dévoile, arrive à se dire des choses qu'il n'a jamais pu dire, qui lui pèsent bien souvent et qui ont une influence terrible sur sa vie, et qui entrave sa vie, parce qu'être accompagné, c'est peu à peu supprimer ses entraves. Et je crois que quand l'accompagnateur reçoit de telles confidences, je le vois en accompagnant des prêtres, en accompagnant de multiples personnes, il faut rendre grâce, il faut bénir le Seigneur pour la confiance qui nous est faite. Et ne jamais s'imaginer que cette chose-là, elle m'est dite à moi personnellement, à des fins personnelles. Elle est déposée sous le regard du Seigneur. Et là, je bénis le Seigneur, je rends grâce, et souvent je dis à la personne, je te remercie pour la confiance que tu me fais. Et je ne rajoute pas plus. Le temps fera le reste. La personne reviendra sur ce qu'elle a dit. Elle en reparlera si elle le veut. Et là, à ce moment-là, nous commencerons un travail. Mais je rends grâce pour la confiance qui m'est faite, mais je n'en rajoute pas. Je laisse le temps à la personne de prendre conscience de ce qu'elle a déposé, du courage qu'elle a eu, et je remercie le Seigneur. Et moi-même, je m'appuie sur le Seigneur.
Et là, Philippe. Le signe, je dirais, c'est la joie que l'on a ensemble, la joie de l'accompagné et la joie de l'accompagnant. On arrive à même plaisanter et sourire de nos merdouilles. Et ça, c'est une immense vérification. et on a envie d'aller plus loin.
Vérification, donc, je dirais, ce fruit aussi de la joie vient d'une vérité dans la relation.
C'est la grâce.
Et de la confiance.
C'est la grâce.
Et c'est la grâce qui devient finalement, qui opère.
Oui.
Oui, parce que tout peut se dire, des choses parfois extrêmement...
Qui ne se sont jamais dites.
Qui ne se sont jamais dites, ou même parfois, en tant que Suzanne, il y a des choses qui peuvent me paraître très dures, difficiles à entendre dans ma personne. Mais c'est vrai que si c'est le Christ qui écoute en moi, et si je m'appuie sur le Christ, et si je pose un regard d'amour sur l'autre sans jugement, je suis dans la joie parce qu'il y a cette joie du partage et cette joie de savoir que justement cette chose-là si difficile vient d'être posée. Cette chose qui faisait une telle entrave dans ma vie vient de se déposer. Là, nous allons pouvoir continuer, nous allons pouvoir avancer. Et la personne qui est accompagnée va pouvoir s'approcher encore plus du Christ parce qu'à l'issue de cette déposition, de ce qu'elle vient d'exprimer, ensuite, elle va pouvoir regarder le Christ et reposer cette chose-là sous le regard du Seigneur. C'est la joie.
Au fond, le grand résultat, c'est le début de la déposition.
C'est le début de la déposition.
Vous avez d'ailleurs écrit un livre. Je souris.
C'est mon premier livre.
C'est votre premier livre.
C'est mon premier livre. Oui, déposé sous le regard du Seigneur.
Ouais. Oui. Ah ouais, au fond, c'est votre premier bébé. Puisqu'on parle d'accompagnement spirituel, le mois dernier, dans ce même magazine sur ce thème de l'accompagnement spirituel, on évoquait aussi dans ce rôle d'accompagnateur le rôle de père et de mère. Il y a une véritable maternité spirituelle.
Déposer son fardeau. Déposer son fardeau, et c'est ce qui apporte une joie.
Donc le nommer et le voir.
Le nommer, le voir, le nommer, l'accepter. Et cette acceptation, justement, elle se fait parce qu'il y a un regard d'amour en face, il y a un regard de non-jugement, il y a une délivrance, oui, c'est une délivrance, une véritable délivrance. Et eh bien, il y a de la joie parce que là, moi je dis toujours à la personne, je dis, mais tu vois, bénissons le Seigneur. Parce que là, l'Esprit Saint nous a accompagnés. C'est grâce à l'Esprit Saint que tu as pu poser cette chose-là. Et je t'ai entendu. Bien, maintenant, tu vas voir, nous allons aller plus loin. Et puis ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas redéposer tout cela sous le regard du Seigneur.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous validez toutes ces paroles?
Oui, ce que je voulais dire, justement, c'est que la vérification que ce n'est pas la dérive, c'est justement cette libération.
Le terme de vérification revient très souvent quand on aborde ce thème d'accompagnement spirituel.
Oui. Et donc, puis mon exemple personnel, c'est que je pense quand il y a eu des choses difficiles à poser ou à déposer, ça s'est fait en toute confiance avec l'accompagnatrice, mais ça s'est fait aussi en présence du Christ, c'est-à-dire devant le Christ, devant la croix. Et pour moi, je trouvais ça vraiment très important.
En prière.
Voilà. Suzanne voulait.
Oui, dans l'accompagnement. Oui. Moi, je reçois les personnes chez moi, dans une petite pièce, dans mon lieu de prière. Et bien sûr, dans tous les angles de cette pièce, le Christ est présent. Il y a une icône, on commence par la prière, on termine par la prière. S'il faut s'arrêter, on prend un temps et on prie. Et autant moi que la personne qui est en accompagnement, elle a le Christ en face d'elle. Nous nous mettons sous le regard du Seigneur. Ce n'est pas une pièce anonyme.
Donc l'accompagné ne se met pas sous le regard de l'accompagnateur, il se met bien sous le regard du Christ.
Il le met sous le regard du Christ.
C'est important.
Voilà.
Ne nous trompons pas d'accompagnateur.
On n'est que le serviteur, l'intermédiaire. Ne nous trompons pas d'accompagnateur. Mais l'accompagnateur a un rôle, bien sûr, important. Il ne doit pas le nier. Il a sa part.
Ouais. Marie-Christine.
Oui, je voulais rajouter quelque chose. Parce
que
quelquefois, quand on habite loin de chez notre accompagnatrice, ça peut être un accompagnement téléphonique, par exemple.
Oui.
Et quand on va raccrocher de cet accompagnement téléphonique, eh bien, on va... Je sais que Suzanne, elle le fait aussi de son côté, et on va chacune prier devant notre Christ, Suzanne chez elle et nous chez nous. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi une on comprend là que la dérive, elle est pas présente, quoi.
Ah oui, parce qu'on parlait tout au début et puis au cours de cette émission de Vivante Église, nous reviendrons aussi sur, au fond, apprendre le discernement, pour apprendre un petit peu peut-être cette prudence dans le choix de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice. Comment éviter l'erreur? Comment ne pas se tromper d'accompagnateur? Qu'en pensez-vous, Philippe?
La dernière émission, nous avons parlé effectivement quand le moment sera venu. Quand le moment sera venu, l'accompagnateur se présentera à toi. Et je pense qu'il y a, par rapport à son attente et son désir, effectivement, on peut peut-être jeter son dévolu sur quelqu'un, mais si on reste à l'écoute et si on reste patient, et dans la prière, les choses se font. Le Seigneur met sur notre route celui ou celle qu'il nous faudra, il me semble.
Il est donné, l'accompagnateur est donné, et il est reconnu. Mais l'erreur est toujours possible, bien sûr. L'erreur est toujours possible quand il y a une très grande attente ou une très grande souffrance, par exemple. Ça peut arriver. Et ça ne veut pas dire que l'accompagnateur ne soit pas un bon accompagnateur. Ça ne veut pas dire cela. Mais le courant ne passe peut-être pas comme il devrait passer. Ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas peut-être cette confiance total qu'il doit y avoir dans l'accompagnement. Il y a des petites choses qui peut-être ne nous conviennent pas. Ça ne veut pas dire que l'accompagnateur n'est pas un bon accompagnateur, mais nous avons tous des petites préférences. Nous avons tous des...
Est-ce que ces préférences dont vous parlez, il faut les écouter, savoir aussi les entendre?
Oui, bien sûr, il faut être à l'écoute.
Garder la liberté.
Il faut garder cette liberté. Nous avons une sensibilité, nous avons une manière d'être, une manière de vivre, de parler. Et il y a des personnes qui vont mieux nous convenir que d'autres, sans mettre derrière, comment dirais-je, on peut aller vers un accompagnateur, s'apercevoir que bien non, avec lui, je n'irai pas au bout de ce que je... Je n'irai pas complètement au bout parce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'y aller, eh bien, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, un accompagnateur, il faut dire à son accompagnateur, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui me convient mieux. Et on lui dit, mais va, si tu as rencontré une personne qui vraiment va te permettre d'aller au plus près du Christ, va, au contraire. Le rôle de l'accompagnateur est d'aider la personne à aller vers le Christ. Et le danger, justement, ce serait de vouloir s'approprier une personne et de vouloir absolument se l'approprier.
Et en se l'appropriant, c'est le début, finalement, d'une emprise.
Ah ben c'est une possession, c'est un abus de pouvoir. Oui, c'est un abus de pouvoir.
On sait combien il y a eu aussi récemment, derniers mois, ces abus de pouvoir.
C'est très douloureux.
C'est très douloureux. Vous avez suivi de près un peu Suzanne Joseph-Pitès.
Alors, par principe,
c'est déroulé un petit peu dans l'actualité. Oui.
Alors, j'ai un principe. Les choses sales, je les laisse de côté. Je ne les ignore pas. Mais je n'y plonge pas dedans. Et je m'en sers pour entrer encore plus fortement dans la prière parce que c'est une grande souffrance. Et il est certain, vous savez, quand ce livre-là est sorti, je fais des conférences à partir d'un livre, vous m'aviez d'ailleurs invité, et il est sorti au moment où il y avait un très gros scandale avec un accompagnateur spirituel connu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça... Comment ça va se passer? J'avoue que j'avais une certaine appréhension, parce que je me suis dit, on va te tomber dessus à bras raccourcis. Mais il n'y a eu aucune remarque. La conférence s'est faite dans la vérité, dans la simplicité. Il n'y a eu aucune question malveillante et toutes les personnes ont compris le message qui passait. Voilà, donc je crois qu'il y a ce ressenti quand on sait qu'on est vrai, quand on ne recouvre pas les choses, qu'on ne les nie pas et qu'on ne les refuse pas. Donc elles sont à dire, mais il ne faut pas les entretenir.
Donc il ne faut pas s'y arrêter.
Non, il ne faut pas s'y arrêter. Moi, je continue ma marche sous le Christ et je vois. Mais je continue ma marche.
Alors nous, on va s'arrêter quelques minutes, Suzanne Joseph-Pitestu, Marie-Christine et Philippe, pour cette première plage musicale dans ce magazine consacré à l'accompagnement spirituel et puis peut-être à éveiller le désir de demander dans la prière un accompagnateur ou une accompagnatrice ou un changement d'accompagnateur ou d'accompagnatrice. Hein ? À tout de suite et merci.
Jésus, tu es le Christ. suis doux, je suis humble de cœur. Vous qui peinez, venez à moi, je vous soulagerai.
Vivante Église, Nathalie Cardon.
De retour dans ce magazine de Vivante Église, Suzanne José Pitestu, Marie-Christine et Philippe, toujours présents en plateau sur cette thématique abordée que nous avons abordée le mois dernier autour de l'accompagnement spirituel. Je rappelle pour nos auditeurs qui voudraient peut-être approfondir et avoir des outils, Suzanne José Pitestu, vous avez donc écrit il y a déjà plusieurs mois ce livre sur l'accompagnement spirituel, petit précis d'accompagnement spirituel, vivre librement. Un livre très précieux qui donne donc, qui questionne, donne des réponses, enfin des pistes de réflexion pour aller peut-être plus loin, creuser aussi le sujet de l'accompagnement, comment on se fait accompagner et au fond est-ce qu'on on est éveillé dans son désir de se faire accompagner, être réveillé. Alors pas de camouflage, pas de mensonge quand on est accompagné envers son accompagnateur. Ça c'est aussi un point important pour vous Suzanne et j'imagine aussi pour Marie-Christine et Philippe. Rien camoufler.
Pas de mensonge, être honnête, être en vérité. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cela, parce que quand on dit pas de mensonge, pas de camouflage, être en vérité, il faut savoir que tout ne peut pas être dit d'un seul coup. Alors ça, c'est normal qu'on ne puisse pas tout dire d'un seul coup. Il faut du temps, il faut parfois des années pour arriver à poser quelque chose. Mais si on ne peut pas le poser, le dire. Donc, l'accompagner ne doit pas tricher, être très honnête, mais l'accompagnateur aussi a cette obligation. Il ne doit jamais tricher devant la personne avec la personne qui l'accompagne. Jamais. Parce qu'à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de confiance. Si, au cœur de l'accompagnement, on introduit la flatterie, on introduit les compliments.
La séduction. La séduction.
La séduction, on veut paraître très bien aux yeux de son accompagné, on veut se montrer comme une personne absolument bien sur tout rapport. Ça ne peut pas marcher. Ça devient très grave. On est dans une très grande tricherie, on n'est pas honnête. Et tout va être faussé. On ne peut pas accompagner la personne. L'accompagné va s'en rendre compte, ou peut-être pas, ce qui devient à ce moment-là extrêmement dangereux. Et c'est là qu'il peut y avoir des manipulations. Et c'est là que le démon s'introduit et peut faire de très gros dégâts. Donc, être en vérité, ça ne veut pas dire tout dire à tout moment. Nous ne sommes pas forcément prêts à dire certaines choses. Ou nous pouvons dire une partie, dire à notre accompagnateur, « Voilà, j'aimerais te parler de cette chose-là, je n'arriverai pas à tout dire. » Hein, mais ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Tu dis ce que tu peux. Quand tu pourras aller plus loin, tu en parleras, Seigneur, tu le feras. Bon. Mais ne jamais jouer sur la fragilité d'une personne, ne jamais jouer sur ses émotions, sur sa fragilité, ou surtout ne pas faire œuvre de curiosité malsaine, soi-disant pour l'aider, soi-disant pour lui permettre d'aller plus loin, parce que là, ça devient extrêmement dangereux. Je crois que...
Est-ce qu'au fond, c'est un début de violation de l'autre, d'être peut-être intrusif, trop curieux?
Il ne faut jamais l'être. Jamais d'intrusion. Il n'y a pas, je vais employer un mot fort, nous n'avons pas à violer la personne. Le Christ ne nous a jamais violés. Le Christ s'est approché de nous, il s'est approché des malades, il s'est approché des souffrants, il les a regardés, il leur a montré un visage d'amour. Il leur a donné le temps de s'exprimer. Il nous laisse à chacun de nous le temps d'aller vers lui. Il a cette patience, il a cette miséricorde. Il ne force personne. Il nous laisse venir à notre rythme, là où nous en sommes et comme nous sommes. De quel droit vais-je imposer à une personne des questions ou vais-je forcer son dire sous prétexte de l'aider? Je crois que là, on tombe dans une attitude qui est extrêmement dangereuse, on tombe dans un pouvoir. Donc nous parlions, je crois que nous avons parlé du retrait. Ce retrait est absolument nécessaire. Certes, il y a une très grande intimité entre l'accompagnateur et l'accompagné. C'est inévitable au bout de plusieurs années. Mais malgré cette intimité, malgré cette confiance, il y a toujours ce profond respect qui permet d'avoir cette distance, cette juste distance. C'est le retrait du Christ. Il faut se maintenir dans ce retrait du Christ. Le Christ s'est retiré sur la croix pour nous permettre d'être. Moi, j'ai à me retirer comme il le faut pour permettre à l'autre d'être au moment où il est prêt pour être, au moment où il est prêt à se dire. C'est capital. Il faut rentrer dans une très grande vigilance et la prière. La prière permanente.
C'est le mot d'ordre.
C'est le mot d'ordre. La prière permanente.
Le confesseur. Est...
Avant, pendant et après.
Voilà. On n'a pas parlé de la confession, mais on y viendra aussi.
On y viendra, hein. Oui,
c'est important. Avez-vous envie de réagir, oui. Philippe, vous qui êtes accompagné par votre mère spirituelle ici présente en studio. Donc, vous durez dans ce même accompagnement depuis 20 ans. Est-ce que vous avez été vraiment à l'écoute des paroles de Suzanne Giuseppi Testu?
Oui.
Avez-vous envie de réagir?
Oui, bien sûr. Cela évoque beaucoup de choses. Ça évoque le discernement qu'il faut pour être accompagnateur. Ça demande beaucoup de discernement. Il n'y a pas de brusquerie, mais il n'y a pas de mollesse non plus. Et à partir du moment où l'accompagnement me dérange, c'est bon signe. Parce que ça va dire, qu'est-ce qui gratte en moi? Qu'est-ce qui hurle en moi? Et là, on peut avancer. Et à chaque fois, c'est de plus en plus profond. C'est de plus en plus ténu, discret, mais présent. Chose que je ne vois pas toujours. Je vois les anciennes, mais je ne vois pas les nouvelles qui arrivent. Ou je ne veux pas les voir, hein, on les recouvre des fois. Et l'accompagnateur spirituel discerne ça et va de plus en plus loin avec son enfant spirituel. Il l'emmène toujours plus loin, parce que toujours plus loin, qui est-ce qu'il y a au bout? Le Christ.
Alors j'ai envie de reprendre un peu, pas de mollesse, c'est... vous avez souri.
Oui. Oui, parce que justement, cette mollesse, ça peut être une manière de laisser courir les choses, ça peut être un manque de courage de la part de l'accompagnateur, ça peut être aussi la peur de perdre la personne que l'on accompagne, parce qu'il y a une certaine emprise ou il y a un certain pouvoir, peut-être inconscient, mais qui peut être
dangereux. Donc là, il y a un risque.
On prend un risque. Donc, tout n'est pas à dire, nous l'avons déjà exprimé. Il faut laisser à l'autre le temps de se dire. Mais quand il faut dire... Quand vraiment le Seigneur, là, quand la personne dit une parole, il faut la saisir, parce que là c'est vraiment le moment
où il y a quelque chose,
le moment favorable. La grâce est là, il faut la saisir. La grâce est là, il faut la saisir, d'où l'importance d'être toujours sous le regard du Seigneur.
Et à l'écoute.
Et à l'écoute. Et là, il faut dire à la personne, je sais parfois que la personne, ça va être peut-être un peu difficile à entendre, parce qu'elle n'a pas envie d'entendre
donc
cela.
Donc là, l'accompagnateur ose prendre ce risque.
Ose prendre ce risque, et le risque de dire, mais... il ne l'acceptera peut-être pas, Mais ce serait malhonnête de ma part de le maintenir dans son mensonge, de le maintenir dans cette illusion. Et il a cette chose à l'entendre pour aller plus loin dans sa marche, pour s'approcher le Christ, parce que cette chose-là est une entrave à sa relation au Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de perdre la personne. Il peut partir.
Il est libre, sous
le regard du Seigneur.
Philippe, j'aurais juste envie réagir,
de rajouter quelque chose, c'est que l'accompagnateur souffre avec.
C'est vrai.
Vous confirmez ?
Oui.
D'où la maternité,
parce que je sais que cette chose-là va peut-être être dure à entendre pour la personne. Mais oui, comme une
elle
mère.
Elle est nécessaire. Hein.
Elle est nécessaire.
Pour parce faire grandir, que, au fond.
Le Christ, d'ailleurs, le Christ nous donne des leçons magistrales. Hein, parfois, je lui dis, Seigneur, là, tu vas un petit peu fort. Mais il nous donne des leçons magistrales. Eh bien, mon Dieu, il m'a donné cette grâce d'accompagner ses brebis, parce que ce sont ses brebis. Et à mon tour, parfois, d'avoir une sévérité de l'amour. La sévérité
c'est
de l'amour.
C'est joliment dit, une sévérité
voilà,
de l'amour.
La sévérité de l'amour. Mmh. Et évidemment, oui, il y a une souffrance. Et il m'arrive de dire au Seigneur, tu sais, je suis peut-être allée un peu loin, Seigneur, peut-être un peu fort. Et un jour, j'ai posé la question à mon père spirituel, c'était au début que je faisais de l'accompagnement. Je lui ai dit, tu sais, voilà, peut-être je suis allée un peu loin, c'est un prêtre. Et il m'a dit, est-ce que ce que tu as dit, tu l'as dit sous le regard du Seigneur et en vérité ? Je lui ai dit oui. Alors il m'a dit, laisse faire le Seigneur, c'était à dire. Et là, je dis au Seigneur, mais écoute Seigneur, peut-être je suis allée un peu fort. Je vais porter s'il faut porter. Mais parle à son cœur. Aide-le à comprendre ce qu'il a à entendre. Parle à son cœur. Et si je dois porter, je porterai.
Vous avez envie de réagir, hein ? Marie-Christine ?
Ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, il y a des choses difficiles à entendre, mais une fois que on a eu la première réaction, peut-être de se dire,
je vais détendre, mais vous en avez fait l'expérience
oui,
en
moi,
16
oui.
ans d'accompagnement.
Oui, oui, plusieurs
oui,
fois.
Ça a été donc on l'entend. On essaie de détendre un petit peu ce
plusieurs fois. Et mais par
oui,
contre,
plusieurs fois. Donc à répétition.
Voilà, parce que
vous avez entendu.
Elle a l'expérience.
Oui, voilà.
Donc voilà.
Je suis une résistante. J'accepte pas toujours d'entendre ce que le Seigneur a à me dire aussi, par l'intermédiaire de Suzanne, pour aller vers ma liberté.
Et ça se manifeste comment, cette résistance, en 16 ans d'accompagnement ?
Et ça se manifeste quand elle me fait toucher du doigt quelque chose de ma vie que je ne veux pas voir. Je me dis, mais non, c'est pas comme ça, quoi. Il y a le « mais ». Quand on dit « oui, mais », souvent, c'est qu'il y a quelque chose qu'on veut pas voir. Si Suzanne nous dit quelque chose, nous montre quelque chose...
Au nom du Christ.
Au nom du Christ,
et qu'on dit « oui, mais », c'est que souvent, on veut pas voir un petit fonctionnement qu'on veut pas lâcher ou qu'on veut pas regarder.
Donc, et qui dit aussi la résistance.
Qui dit la résistance.
Donc, la résistance
la souffrance
devant le Seigneur. La souffrance aussi.
Oui, parce que la résistance, il y a peut-être une souffrance. Et pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive, c'est que l'accompagnatrice nous laisse jamais repartir à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va toujours plus loin pour partir dans la paix, quoi.
Apaisé.
Un cœur serein et paisible.
Voilà.
Pas tourmenté.
Voilà.
Et troublé.
Et ça, je trouve que c'est un signe aussi qu'il n'y a pas de dérive. On repart chez soi mieux qu'on est revenu, quoi. Mieux qu'on est arrivé, aussi bien au niveau du visage qu'au niveau de la détente, je ne sais pas dire, ou même de se sentir mieux dans son être et dans son corps même.
Suzanne, vous avez envie de réagir quand
vous
entendez aussi
Marie-Christine. C'est la tendresse du Christ. C'est la tendresse du Christ parce que l'accompagnatrice, elle sait. Je sais que quand je donnais certaines réponses à Marie-Christine ou à Philippe, je savais dans certains cas qu'elle était mal. Et il ne faut jamais jouer avec ça. Jamais. Il ne faut jamais mettre la personne dans une position de faiblesse. Ne jamais la laisser repartir la tête basse. Donc, on laisse passer. Et puis, on reprend le contact, on se met en face l'un de l'autre, on parle. Et là, on s'explique sous le regard du Seigneur, on reprend les choses et elle repart dans la joie. Et quand elle repart, c'est dans la joie après avoir compris. après avoir compris.
Donc, ce thème de joie revient.
Oui, toujours.
Donc, ça vérifie aussi la qualité, la justesse.
Le Christ est là.
De la présence du Christ entre l'accompagné et l'accompagnateur.
Le Christ est là.
Le Christ est bien là.
Voilà, je ne repars pas triste en position de faiblesse. Je repars en position de force avec la joie du Christ.
Donc ça, c'est un signe qui vérifie.
C'est très important.
Fond,
hein. C'est très important.
Donc, chers auditeurs, tout qui peut être peut-être accompagné ou pas, donc prenez du temps, réfléchissez, avoir aussi peut-être le courage ou l'audace de se poser des questions sur l'accompagnateur ou l'accompagnatrice.
Oui.
On peut se remettre en question.
Oui.
On peut aussi s'autoriser à avoir cette liberté du changement, même après 20 ans, comme vous, Philippe, d'accompagnement.
Oui.
Si
Philippe,
libre, hein.
Oui, si Philippe me dit, voilà, écoute Suzanne, ça fait 20 ans que tu m'accompagnes, et tu sais, il y a peut-être un peu de routine maintenant.
J'allais vous dire,
nous
ce,
nous connaissons
peut
bien, il y a peut-être un peu de routine, ça peut arriver.
C'est pas le cas, je vous rassure.
Voilà. Non, mais il y a aucune mollesse dans l'accompagnement.
Non, surtout pas.
Mais ça peut
non.
arriver. Et je lui ai dit, écoute Philippe, si tu as trouvé quelqu'un qui peut te conduire, maintenant prendre le relais, je suis dans la joie de t'avoir conduite toutes ces années, mais j'ai été un petit élément sur ton chemin, un petit serviteur du Christ sur ton chemin. S'il y a quelqu'un qui peut maintenant aller plus loin, va, je suis dans la joie, va.
Et ça, c'est un signe de la vérité de l'accompagnement, c'est-à-dire que régulièrement, c'est pas, je vais dire, tous les 15 jours, tous les mois ou tous les ans, mais quand le besoin s'en fait sentir, régulièrement, il y a cette question qui est posée. Est-ce que tu veux que je continue à être ton accompagnatrice ou ta mère spirituelle?
Ou as-tu le désir d'être accompagnée plutôt par une autre personne? Voilà. Est-ce que tu as le désir de continuer?
Et
ou
ça,
as-tu
ça
le
veut
désir
dire que
ce
n'est pas quelque chose que Suzanne s'approprie. Je veux dire,
Vous êtes libre dans cet accompagnement.
Libre.
Donc, on peut peut-être interroger les auditeurs qui écoutent ce magazine de Vivante Église consacrée, au fond, à ce qui pourrait être une dérive dans l'accompagnement, l'abus de pouvoir, l'emprise, la curiosité, avec une intrusion de l'accompagnateur chez la personne accompagnée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux et celles qui nous écoutent? Vigilance, prudence, patience aussi, et puis désir peut-être de chercher l'accompagnateur. L'accompagnateur, ils se font rares. Hein. Entre nous, ils sont rares aujourd'hui.
Oui, mais je
l'entends autour de moi. La rareté aussi de trouver l'accompagnateur qui corresponde.
Je crois que la première chose en fait à avoir, parce qu'on dit des mots qui sont très forts, mais c'est la confiance. Parce que si on ne part pas avec la confiance et en vérité, honnêtement, on trouvera toujours quelque chose à redire à son accompagnateur. On n'est pas parfait. Alors certes, il y a peu d'accompagnateurs, mais je dis toujours à une personne, parfois on me demande d'être accompagnée, mais je ne peux pas prendre tout le monde.
Vous ne pouvez plus
aujourd'hui. Ce n'est pas possible, il faut être sérieux.
Oui.
Et je dis à la personne, écoutez, si vraiment vous avez le désir d'être accompagnée, vous trouverez votre accompagnateur. Et c'est vrai, je ne mens pas. Il y en a peut-être peu, parce que c'est exigeant, on donne sa vie dans l'accompagnement. On ne fait pas abstraction de sa vie, mais on la donne. Ça prend beaucoup de temps, c'est gratuit, c'est oui, on donne de son sang. Philippe l'a exprimé. Mais si vraiment on a le désir d'être accompagné, on trouvera notre accompagnateur. On le trouve, mais peut-être pas à sa porte. Moi, je fais 800 km pour aller voir mon accompagnateur.
800 km.
Oui, je fais 800 km pour aller voir mon accompagnateur depuis 25 ans.
Donc ça vérifie, je dirais, la qualité aussi, la prudence aussi. Est-ce qu'on peut parler de charisme dans l'accompagnement spirituel?
Oui, je pense que c'est un charisme. On ne s'improvise pas accompagnateur spirituel.
Donc ça, c'est important.
C'est un charisme, c'est une grande grâce qui demande certes des connaissances humaines et spirituelles et d'avoir fait soi-même un très long chemin. Et c'est notre accompagnateur qui nous dit à toi maintenant.
Merci à tous les trois. Une plage, une petite respiration. On va un petit peu respirer, souffler pour laisser pénétrer un petit peu toutes ces paroles qui nous ont été livrées. À tout de suite. Hein. Restez avec nous.
Dieu de toute bonté, grâce
secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Heureux celui qui te cherche, son âme habitera le bonheur. Heureux ceux dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Seigneur, que ta grâce nous porte, nous irons de hauteur en hauteur. Fais-nous brûler d'amour en ta douce présence, Dieu de toute bonté, grâce et fidélité. Rassasie-nous ton amour, nous vivrons dans la joie et les chants. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Nous courons sur la voie de tes commandements. Mon cœur a brûlé de désir, je garderai tes exigences. Je trouve en ta loi mon plaisir, toi seul ma récompense. Fais-nous brûler d'amour en ta douce présence, Dieu de toute bonté, grâce et fidélité. Fais-nous brûler d'amour
présence.
Vivante Église, Nathalie Cardon.
Alors, retour dans ce plateau de Vivante Église sur le thème de l'accompagnement spirituel. On essaie d'y voir un petit peu plus clair pour éviter les quelques dérives, peut-être, les abus de pouvoir, ne pas se tromper. Suzanne Giuseppi Testu, toujours parmi nous. Je conseille vraiment ce livre de lecture pour le chemin, voilà, un chemin personnel, petit précis d'accompagnement spirituel, vivre librement, sans emprise, voilà. Voilà, et garder cette liberté au cœur même de l'accompagnement. Marie-Christine Courbière, vous êtes accompagnée par Suzanne, oui, qui est à vos côtés. Cet accompagnement dure, puisque ça fait 16 ans. Oui. Vous vous rappelez de ces toutes premières rencontres, de ce tout début, je crois que vous pouvez en témoigner.
Oui, ça faisait bien 30 ans que j'étais loin de l'Église. Et donc, je cherchais un sens à ma vie.
C'était un nouveau virage que vous attendiez.
Voilà, ouais. C'était un grand tournant.
Dans un moment de grande crise et de souffrance.
Dans un moment de questionnement, oui. Au moment où j'ai été grand-mère, d'ailleurs. Voilà, à la naissance de ma petite fille, je me suis posé des questions sur le sens de ma vie, sur mon histoire personnelle. Et au début, quand je suis allée vers Suzanne, j'allais plus vers Suzanne pour chercher un réconfort. Je savais qu'elle travaillait avec les évangiles, mais moi, les évangiles, je n'avais pas trop envie de... Voilà, je venais un peu chercher peut-être un encouragement.
Une consolation.
Une consolation, plutôt un encouragement.
Encouragement.
À continuer ma route. Et Suzanne, elle me parlait toujours des pères de l'Église et des évangiles. Et alors, quand je venais la voir, je pense que je n'avais pas spécialement envie qu'elle me parle toujours de ça. Donc un jour, je lui ai dit, mais tu me parles toujours des évangiles. Et elle me dit, oui, si tu veux que je t'accompagne, moi, je m'appuie sur les évangiles, je m'appuie sur le Christ. Voilà, mais tu es libre. Tu es libre de continuer avec moi ou tu es libre d'arrêter. Mais moi, je te parlerai toujours... des évangiles, je ne suis pas ta copine. Je t'accompagne sur ce chemin de liberté et de retour vers le Christ.
Alors, je ne peux que rebondir. Marie-Christine, on parle d'accompagnement. Suzanne, il y a le terme aussi de copine. On ne fait pas de copinage dans l'accompagnement spirituel?
Non. Il y a de l'amitié, il y a de l'affection, il y a de la tendresse. Moi, je suis franciscaine, vous savez, et François d'Assise n'a jamais renié ses sens. François savait aimer, il savait être tendre, il savait être affectueux, et je crois qu'ils nous sont donnés pour en faire un bon usage. Mais il ne faut pas confondre l'affection et l'affectivité. Il ne faut pas confondre le copinage. Si Marie-Christine avait envie d'être encouragée et de papoter, elle allait trouver ses copines. Ses copines lui auraient dit « Mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave, tu vas voir, ça va s'arranger, etc. etc. » Moi, elle m'avait demandé de l'accompagner. L'accompagnement ne peut pas, selon la tradition chrétienne, ne peut pas s'accomplir sans la parole, sans les évangiles, sans l'écriture, sans la présence du Christ. Donc quand elle m'a dit cela, je lui ai dit « Oui, tu m'as demandé de t'accompagner, donc chaque fois que tu ouvriras la bouche, oui, je m'appuierai sur les écritures. » Et je lui ai dit « Je ne suis pas ta copine.
» Vous rigolez,
mais je souris plus. C'était un peu dur. Parce que j'ai un souvenir au début où j'étais vraiment loin et Suzanne, elle sentait que j'avais besoin d'un appui. Elle m'a demandé d'aller acheter la prière du temps présent. Et de lire les laudes le matin. Et donc, je suis allée acheter mon petit livre de prière du
obéi,
temps présent.
Hein, j'ai bien obéi.
Oui. Et j'allais travailler, je prenais le bus à cette époque-là. Et donc, je lisais les laudes dans le bus le matin. Et je ne comprenais pas trop, en fait. Je ne comprenais pas trop pourquoi elle m'avait demandé ça. Et je m'aperçois au fil des années, en fait, que ça me permettait de démarrer ma journée avec le Christ.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, Marie-Christine, tout comme vous, Philippe, après toutes ces années d'accompagnement, vous êtes sur vos lieux, vos paroisses, en fait, en mission. C'est votre cas?
Oui, oui, oui.
Vous pouvez en témoigner?
Oui, je prépare, j'accompagne les adultes qui demandent le baptême ou la confirmation. Et j'accompagne aussi les parents qui des petits-enfants et qui veulent être baptisés.
Alors, on peut dire que vous pouvez missionner aujourd'hui à votre tour auprès des catéchumènes, auprès de ces enfants, parce que vous êtes finalement vous-même fidèle à cet accompagnement spirituel. Suzanne,
oui, il y a, je crois, une chose importante à dire, Marie-Christine, c'est que tu as fait un chemin magnifique et tu le continues. Et ce chemin t'a amené vers ta vocation de veuve consacrée. Oui. Et je crois que ça, c'est une très belle chose. Et à partir de ce chemin et de ta consécration, beaucoup de personnes qui sont en difficulté et en souffrance dans ton village t'appellent parce qu'ils ont assisté à ta consécration. Ils ont vu que pour eux, grâce à ton témoignage, ce retour en église était possible. Et quand ils sont en difficulté ou qu'ils sont malades ou qu'ils sont à l'hôpital et parfois des maladies graves, tu vas les rencontrer, tu vas les écouter. Et ça, c'est le travail que tu as fait en accompagnement qui te permet maintenant de le faire. C'est ta vocation, c'est ta mission.
Et son appel.
Et
les conséquences aussi d'un accompagnement.
Absolument.
D'une fidélité.
Oui, si j'avais pas
été
accompagnée,
j'aurais
jamais vu cet appel déjà. Je l'aurais pas vu.
Donc la
fécondité. Donc j'aurais pas pu répondre.
Et c'est le salaire de l'accompagnateur. Ouais. L'accompagnement est gratuit. L'accompagnement est gratuit. Et ça, c'est l'immense salaire de l'accompagnateur.
Alors pour vous aussi, Philippe,
oui,
il y a des fruits, il y a une fécondité 20 ans après de l'accompagnement,
oui,
puisque vous-même vous accompagnez à votre tour.
Oui, oui, oui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Avec mon épouse, nous sommes entrés dans l'ordre franciscain séculier après un cheminement franciscain en 2008. Mon épouse visite dans les hôpitaux Également, je fais partie du service des funérailles impliqué en paroisse. Et voilà, j'essaie de redonner toutes les grâces qui me sont données à ma mesure et selon mes compétences.
Il y a Lourdes aussi.
Il y a Lourdes, oui, il y a l'hospitalité. Je suis au conseil de l'hospitalité de l'hospitalité de Clermont-Ferrand, hospitalité de Lourdes. Et tous les ans, nous accompagnons 100 malades. Et il se passe des miracles, voilà. Ils ne sont pas toujours très visibles, mais quand on regarde les gens, on voit les miracles dans les yeux.
Nous parlions de joie, mais la joie est là.
Et quel est le plus grand miracle dans l'accompagnement spirituel?
C'est ce qui vient de s'exprimer. C'est cette joie. C'est redonner à l'autre ce qu'on a reçu, ne pas le garder pour soi. C'est une immense joie. L'envie. Redonner ce qu'on a reçu. Moi, je redonne ce que j'ai reçu. Eux redonnent ce qu'ils ont reçu. Pour qui? Pourquoi? Pour la gloire de Dieu, pour le Seigneur. C'est ce qui permet d'avancer, pas pour soi.
Marie-Christine ?
Oui, je disais que c'est d'être de plus en plus vivant. Les fruits, c'est la joie et puis d'être de plus en plus vivant et de plus en plus témoin.
Physiquement, même atteint physiquement, c'est de se dire qu'il y a des choses tellement plus grandes que ce qu'on attend, que ce qu'on voit, que son physique. C'est tellement... Oui, je dis merci mon Dieu.
Dernier mot, et nous allons conclure ce magazine de Vivante Église. Je me tourne vers vous, Suzanne Giuseppi Testu. Je pense à ceux et celles qui vous ont peut-être écouté, qui ont suivi ce plateau aujourd'hui, qui sont peut-être dans le questionnement d'un accompagnement possible ou non, qui sont peut-être dans une étape aussi de changement d'accompagnateur, mais on n'ose pas.
Il faut oser. Voilà, oser, c'est être gagnant.
Et puis pour ceux qui sont peut-être dans un accompagnement, mais très déçus et qui ne veulent plus du tout être déçu par un accompagnateur ou une accompagnatrice. Et ça sera le mot de fin, de conclusion, parole d'espérance peut-être, parole de joie.
Je crois qu'il faut faire très attention quand on est déçu. Il faut savoir pourquoi on est déçu. Par qui on est déçu, par soi ou par l'autre? Il faut être très honnête dans la déception. Donc si on est déçu, la première chose à faire, c'est d'aller trouver son accompagnateur et de parler avec lui et de s'expliquer. Il faut être vrai jusqu'au bout.
Voilà, donc on en revient à le parler vrai.
Le parler vrai.
Dans l'accompagnement spirituel.
La vérité, la sincérité.
Aucun mensonge, pas de camouflage, mais au fond, une certaine exposition.
Oui, accepter de s'exposer. Accepter,
pour
déposer sous le regard du Seigneur. Et surtout, accepter d'entendre ce que nous avons à entendre et ne pas en faire une déception.
Et entendre de la part du Seigneur.
De la part du Seigneur. Tout cela se vérifie d'ailleurs. Il sait parfaitement bien nous parler, mais là aussi, nous refusons souvent. Mais le Père spirituel ou la Mère spirituelle est là pour nous dire « Mais si, tu as bien entendu, écoute.
» Merci Marie-Christine Courpierre, merci Philippe Jouve et un grand merci aussi de votre participation le mois dernier et puis ce mois-ci dans ce magazine de Vivante Église. Quelques pistes, je l'espère, de réflexion sur l'accompagnement spirituel, peut-être pour éveiller le désir, réveiller, continuer, persévérer, être déterminé,
toujours.
Au fond, du courage, mais au fond, c'est pour la joie de la vérité.
Oui, et l'amour. Ouais.
Et beaucoup d'amour. Laisser toute la place au Christ.
Beaucoup d'amour, laissons-lui la place.
Alors, bon chemin à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés.
Merci.
Merci. Au revoir.